Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
On ne se souvient pas toujours de cette femme si singulière, en son temps mondialement connue comme la plus grande peintre animalière, auteure d'au moins 2 toiles célèbres ultra-réalistes, Labourage Nivernais bien sûr et Le Marché aux Chevaux. Qui se souvient vraiment de cette femme qui aura été la première à recevoir des mains de l'impératrice Eugénie la Légion d'honneur, puis à être élevée au rang d'officier dans cet ordre par le président Carnot? Les visiteurs qui découvrent à Thomery, près de Fontainebleau, dans le château de Bi, l'atelier de cette grande artiste qui a été entretenue et maintenue depuis sa mort en 1899, ont forcément envie d'en savoir davantage à son sujet. Alors retrouvons-la justement au tout début de l'été 1864. À cette époque de l'année, dans ce moment du siècle, la cour impériale séjourne à Fontainebleau et l'impératrice Eugénie, forcément entourée de ces dames, se mettent en tête d'aller rendre visite à la grande artiste de la région, à cette peintre animalière justement. Il faut vous dire que dans le parc du domaine, avec ses chênes et ses grands êtres, batifolent toutes sortes d'animaux, il y a des moutons, des cerfs, des vaches, il y a même des gazelles et des tortues, et beaucoup de chevaux bien sûr, il y a aussi quelques chiens, des sangliers dit-on, un yak et des oiseaux au plumage coloré qui viendront sans cesse s'ajouter avec le temps. L'impératrice se présente donc au milieu de l'après-midi dans le fracas de son train d'équipage, la poussière que soulève l'arrivée des voitures. Il faut imaginer les cochers, les postillons, les gendarmes, quelques officiers de la cour bien entendu et les inévitables dames d'honneur. Il y a une gravure aquarellée d'Amblard qui a conservé le souvenir de cette visite dans l'atelier qui donc est encore celui qu'on peut voir aujourd'hui à Thomery et je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre sur place, non seulement la maison est belle, non seulement l'atelier est encore extrêmement présent, mais il y a des jardins qui sont en ce moment restaurés et qui sont en train de devenir un véritable pôle d'attraction pour tous les amoureux de la nature et des jardins. Bref, la toile qui est sur le chevalet qui a été représentée par le graveur, ce sont les cerfs sur les longs rochers, une œuvre aujourd'hui exposée à New York. Alors, l'impératrice est en robe de promenade, velours bleu sombre avec un petit chapeau à plumes de la même couleur. Elle se montre agréable. Eugénie, elle se montre prévenante, elle veut tout voir et puis déjà elle s'éclipse dans le tourbillon de sa suite et elle laisse l'artiste un peu éberlué, assez fier sans doute d'une aussi impériale visite. Un an plus tard, le 10 juin 1865, l'impératrice est de retour au château de Bi en tant que régente en titre, puisque à ce moment-là, l'empereur lui a confié la régence le temps de son grand voyage en Algérie, vous savez. Bref, Eugénie sort d'un écrin une belle croix de la Légion d'honneur et va donc l'épingler à la blouse de Rosa. C'est la première fois en France qu'une femme reçoit la Légion d'honneur, en tout cas pour autre chose qu'un service déclaré. C'était arrivé dans des cas extrêmement précis en temps de guerre. J'ai voulu que le dernier acte de ma régence fût consacré à montrer que le génie n'a pas de sexe, a dit Sa Majesté. Rosa, malgré la grande force d'un caractère qu'on sait bien tromper, Rosa est émue, évidemment, la voilà donc couronnée, ou plutôt c'est son œuvre qu'on a couronnée. Voilà en tout cas tenue la promesse de sa vie.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle s'appelle en vérité Rosalie Marie, cette Rosa qui était née le 16 mars 1822 à Bordeaux. Elle est le fruit des amours d'un jeune professeur de dessin, Raymond Bonheur, avec un I et de son élève, la délicate Sophie. Ensemble, ils vont avoir 4 enfants et à la maison, l'atmosphère est assez douce, tournée vers les arts. Maman joue du clavecin, papa peint sans cesse. Lors des vacances, la famille s'installe au château de Grimont, pas bien loin de Bordeaux, et c'est là qu'a grandi la mère de Rosa, qui était une orpheline, comme on disait à l'époque, protégée par un aristocrate qui, sur le tard, sur son lit de mort, lui révélera avoir été son père. Rosa est haute comme 3 pommes lorsqu'on la voit déjà batifolée dans le jardin, entre les vignes, sur les bords de la Garonne. Elle court derrière les poules, elle se enhardit même à caresser les vaches. On dit qu'elle est un véritable garçon manqué. Or, dans ses doigts potelés, déjà, on la voit serrer quelques crayons. C'est elle-même, plus tard, qui rappellera tout cela. « Je n'avais pas 4 ans que je me sentais déjà une véritable passion pour le dessin et je barbouillais les murs blancs aussi haut que je pouvais atteindre de mes informes ébauches, » dit-elle. Ce qui m'amusait beaucoup aussi, c'était de découper des sujets en papier. Toujours les mêmes, au reste. Je me faisais d'abord de longs rubans, puis, avec mes ciseaux, je découpais en premier lieu le berger, ensuite un chien, ensuite la vache, ensuite le mouton, ensuite l'arbre, invariablement dans ce même ordre. Bientôt, Raymond décide de tenter sa chance à Paris. Et c'est un autre paysage, là, d'un seul coup. C'est un autre décor. C'est le gris de la ville, d'assez mauvais augure. Les leçons de piano et de dessin qui rapportent peu. Les bonheurs s'installent dans un appartement dont il faut bien dire qu'il n'est pas très attrayant. La situation s'aggrave encore quand Raymond décide de vivre loin des siens dans une communauté de Saint-Simoniens, un groupe utopiste qui prône des valeurs humanistes, notamment l'émancipation des femmes. Et sa femme à lui, pourtant, Sophie, connaît à ce moment-là une véritable misère, et d'autant plus qu'à la mort de son père, une sombre histoire de bureaux forcés, de testaments disparus va la priver d'un bel héritage. Elle s'occupe des enfants, elle donne des cours de musique, accepte des travaux de couture. Rosa, que voulez-vous qu'elle fasse? Elle est impuissante à aider cette mère qui s'épuise. Cette femme si gaie n'est bientôt plus qu'une ombre exténuée, une ombre malade et bientôt condamnée à tout juste 36 ans. Dans cette biographie romancée qu'elle fait donc paraître chez Albin Michel sous la phrase titre « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », Patricia Bouchenaud-Deschin raconte comment, faute de moyens, on a finalement dû abandonner Sophie à la fosse commune. Le cercueil, dit-elle, écrit-elle, disparaît dans un simple trou creusé à même la terre dans le carré des indigents. L'aube ne s'est pas encore levée. C'est l'heure des pauvres que l'on enterre à la faveur de la nuit, par bienséance, pour ne pas gêner dans leur mort, comme s'ils avaient beaucoup gêné pendant leur courte vie. La lune, lui, elle ricane encore, c'est sa manie. Sur le terreau de ce qui est évidemment un immense chagrin, la petite Rosalie note, elle se fait un serment, elle vengera sa mère et plus encore, elle relèvera la femme. Voilà le serment qu'elle s'est fait. Elle relèvera la femme, quitte à l'affranchir d'un certain nombre d'attributs traditionnels de la féminité, nous y viendrons. Le fait est surtout que Rosa va se mettre à arborer des cheveux courts. On va la voir, mais plus tard évidemment, on va la voir vivre un peu à la manière dont vivait George Sand. Vous savez, un jour on la verra fumer des cigares à vannes, porter des vêtements d'homme et des pantalons, ce qui l'obligera à demander à la préfecture de police une licence officielle, ce qu'on appelle la permission de travestissement. Bref, c'est un personnage assez extraordinaire qui va sortir de toutes ces épreuves de la jeunesse. Pour justifier de porter de tels vêtements, elle pourra arguer à l'époque de la nécessité d'aller chercher ses modèles, souvent des vaches, des bœufs et des chevaux, là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les champs. C'est James Galway que vous entendiez à la flûte, bien sûr, accompagné par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Charles Dutoit dans ce concertino de Cécile Chaminade.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, Raymond Bonheur est rappelé à la réalité, si je puis dire. Son aventure avec les Saint-Simoniens a tourné court. Il va se retrouver dans une situation difficile avec quatre bambins à charge. Et il faut improviser, nous dit Anne-Louise Sautreuil. Il confie la dernière à une proche. Il met les deux garçons en pension. Mais que faire de l'aîné? Que faire de Rosa? Rosa lui donne un peu de fil à retordre. Elle est rebelle, elle déteste l'école. Il la place chez une couturière. Seulement, elle envoie vite promener les rubans et les dentelles. Ensuite, elle va d'ailleurs se faire renvoyer d'un pensionnat. La voilà donc libre dans l'appartement familial. Et quand son père part donner des leçons de dessin, eh bien, elle se glisse dans l'atelier paternel. Et un jour, elle dispose quelques cerises face à elle et elle se met à les peindre. Et en rentrant, son père découvre la petite toile incroyablement prometteuse. Il est très ému, ça fait un peu penser à la découverte par le père du Picasso du talent de Pablo aussi, vous savez. Elle est douée, cette petite fille, mais évidemment ça suffit pas d'avoir du talent. Ce n'est pas mal, lui dit son père, travaille sérieusement et tu pourras devenir une artiste. Et il va l'encourager en vérité, il va lui donner des cours, il va veiller sur ses travaux et on la voit bientôt courir les galeries du Louvre. Chaque matin, vêtue d'une veste à brandebourgs, elle s'installe devant l'étoile des plus grands maîtres et s'imprègne des compositions, des contours, des perspectives, des effets d'ombre et de lumière. Elle a ce crayon à la main avec lequel elle parvient à reproduire étonnamment tout ce qu'elle voit. Et les étudiants en art, qui sont des garçons pour la plupart, bien sûr, la taquinent. Ils l'appellent le petit hussard, cette gamine à Brandebourg. Il n'empêche, son talent apparaît au grand jour. Et d'ailleurs, assez vite, elle va vendre des copies qui lui permettent d'aider son père pour les achats du quotidien de cette famille pas comme les autres. Et quand elle n'est pas au Louvre, elle retrouve les plaisirs de ses jeunes années. Elle parcourt les fermes, les étables, les basses-cours de Paris et des environs. Elle sculpte des animaux en plâtre. Elle dessine toujours aussi patiemment et convainc même son père de cohabiter avec une chèvre, des oiseaux, un écureuil. Elle est passionnée par les animaux, vous l'aurez compris. On raconte même que quelques cailles se promènent maintenant dans l'appartement. Au fil des jours, sa destinée s'éclaire. Elle veut devenir une peintre reconnue, une sorte d'Elisabeth Vigée-Lebrun des temps modernes, avec une vocation qui, de son côté, ne la porte pas, donc vous l'aurez compris, vers le portrait, mais bien vers la peinture animalière. C'est une femme assez extraordinaire que Rosa Bonheur. « J'ai toujours mené une vie honorable », écrira-t-elle beaucoup plus tard. « Ma vie est sans tache, je suis restée pure et je n'ai jamais eu ni amant ni enfant. Si je ne suis point mariée, ce n'est pas que les offres m'aient manqué, mais je n'ai jamais voulu aliéner ma liberté afin de mieux m'acquitter de la mission sainte que je m'étais fixée. J'ai toujours voulu relever la femme. » Vous voyez ce terme, toujours, hein. Relever la femme, c'est la clé en quelque sorte de cette existence. J'ai toujours voulu montrer que la femme n'était pas ou pas seulement ce que des siècles de tradition occidentale avaient fini par en faire, dit-elle. Rosa va occuper une place étonnante parmi celles qu'on peut appeler les éveilleuses. Elle repousse les horizons des femmes. Quant à la part intime et personnelle, quant aux élans du cœur de cette femme qui se dit sans tache, il ne fait pas de doute que Rosa, sans jamais se départir de la vie honorable qu'elle revendique, a aimé plusieurs femmes, en tout cas deux incontestablement. La première, c'est Nathalie Mikas, qui fut son alliée, sa compagne, son âme sœur pendant plus de 50 ans. Rosalie avait 14 ans quand elle avait rencontré Nathalie, qui était une petite fille qui posait pour son père à l'époque. Et on peut parler d'une affinité immédiate, vous savez, lorsque vous reconnaissez l'âme sœur, celle qui va vous permettre de vous compléter, de vous sentir accompli. Il y a eu là une sorte de coup de foudre au moins amical. Je cite de nouveau Patricia Bouchenaud. En cette fin d'après-midi, écrit-elle, Rosa machinalement dessine le portrait de Nathalie. L'émotion de la rencontre est encore si vive qu'elle a du mal à maîtriser son crayon. Sa main tremble, elle tente de la rendre non telle qu'elle la voit, assise, offrant son profil à son père, mais telle qu'elle l'a vue en arrivant, se confondant avec le souvenir de sa mère. Elle rouvre mentalement la porte au moment précis où elle lui est apparue. Nul besoin de regarder le modèle, ni sa feuille, de mémoire. Sa main s'approprie la silhouette d'abord, le visage ensuite, il apparaît, elle le saisit, elle tient son sujet, la douceur de sa peau, son grain, le velouté de ses lèvres, son menton délicat. Elle lève les yeux pour croiser son regard si doux, un peu inquiet, si bon. La ressemblance est frappante, sa mère lui sourit, elle la touche. Rosa a fermé les yeux et ne veut pas les rouvrir, juste prolonger sa présence. Cela fait si longtemps qu'elle ne l'a pas vue. Merveilleuse, amoureuse rêverie de Claude Debussy avec au piano Hélène Grimaud.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Rosa n'a pas encore 20 ans quand elle se lance, je veux dire, dans la carrière. Elle présente des œuvres au salon qui sont acceptées. Elle s'installe dans son propre atelier, elle voyage, on la voit des heures entières dessiner sur les plateaux verdoyants du Cantal, où elle vit au rythme des travaux des champs avec des paysans qui lui ouvrent les bras. Si vous saviez tout ce que j'ai éprouvé en voyant ce bon pays où l'on est si hospitalier, où l'on m'a tant fêté, écrit-elle. Et près d'elle, il y a cette jeune femme qui ne la quitte plus, cette Nathalie. En 1848, le travail de Rosa va payer. Elle obtient une médaille d'or ainsi que sa première commande pour l'État. Ce sera le célèbre labourage nivernais. Patricia Bouchenaud-Deschamps raconte comment elle découvre la scène, si je puis dire. C'est un peu avant de tourner pour pénétrer dans l'allée encavée plantée de chênes sur ses rehauts que Rosa a aperçu ces laboureurs. Elle a demandé à faire arrêter la voiture. La lumière était dorée, un peu voilée à cette heure de la journée, et ils étaient trop loin pour les voir en détail, mais leurs silhouettes se sont détachées sur la colline et son imagination a fait le reste. Elle s'est promis d'aller les observer dès le lendemain, tôt le matin. Nathalie et elle sont heureuses d'être là. Elles avaient besoin de partir, de quitter Paris. Les insurrections, les répressions terribles qui ont suivi la République à peine proclamée, déjà discréditée, toute cette violence des derniers mois. Et oui, je vous l'ai dit, on est en 1848. Le père de Rosa va bientôt pouvoir être fier. Il mesure le chemin parcouru depuis ce petit bouquet de cerises. Mais il va bientôt rendre l'âme à son tour et Rosa, cette fois, quitte définitivement le foyer familial. Faut dire que son père avait refait sa vie avec une femme qu'elle n'appréciait pas beaucoup. Elle s'installe donc avec Nathalie et la mère de celle-ci. Elles vont vivre toutes les trois, ce qui ne manque pas de faire jaser, bien entendu. À la mort de son père, Rosa l'a remplacée à la tête de l'école de dessin aussi. Et elle aime dire aux fillettes qui se concentrent sur leur toile « Je vais faire de vous des Léonard de Vinci en jupon ». C'est presque une mission qu'elle ressent en quelque sorte. Hein. C'est vraiment, elle s'est investie en tout cas toute seule de cette mission. Et on la voit qui de son côté s'attelle à une œuvre magistrale, le marché aux chevaux. Pour ça, elle arpente les foires aux bestiaux, en pantalon désormais. Elle a obtenu donc cette permission de travestissement dont je vous parlais. Les vêtements féminins étaient une gêne de tous les instants, provoquant insultes et railleries, écrira-t-elle, devenant même dangereux. Au salon de 1853, le marché aux chevaux éblouit les critiques et les visiteurs. On s'étonne qu'une femme puisse peindre avec une fougue telle. Et c'est un marchand d'art belge, c'est Ernest Gambard, qui va devenir son agent et qui lui offre pour cette toile quelques 40 000 francs. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, c'est vraiment le début de la gloire. Et bien sûr que Patricia Bouchenaud raconte tout ça. Gambard s'amuse de son excitation, écrit-elle. Prenant à partie Chardin, alors on parle de Paul Chardin, rien à voir avec Jean Siméon, qui ne les a pas lâchés, il profite de l'occasion pour revenir sur sa proposition. « Comme je m'y suis engagé, chère mademoiselle Rosa, votre marché aux chevaux va être présenté à Londres dans ma galerie dans 2 mois, puis il partira pour une tournée dans les principales villes d'Angleterre. » Vous imaginez l'incroyable accomplissement pour cette jeune artiste qui bientôt va devenir riche. Ses tableaux s'arrachent en Angleterre, aux États-Unis. Il faut dire que l'art animalier dans ces pays-là est beaucoup plus prisé que dans une France où on le regarde toujours un peu de côté. À Paris, on n'en vient pas moins dans l'atelier de Rosa pour la voir dans sa blouse, avec ses pantalons, cigare aux lèvres. Toute cette agitation n'en commence pas moins à l'oppresser un peu. Elle ressent un profond besoin de s'évader. En 1860, elle va s'offrir ce château de Bie magnifique à Thomery et mener avec Nathalie une vie vraiment rustique. Et quand éclate la guerre de 70, les soldats prussiens vont finir par fondre sur Fontainebleau. Pas de quoi faire trembler Rosa. Elle se procure, nous dit une de ses biographes, des armes et invite les habitants de Bie à venir s'entraîner au château. Puis elle se rend auprès du maire pour lui faire part de sa volonté d'aller au-devant de l'envahisseur. En fait, on ne la prend pas au sérieux, mais qu'importe, elle n'en est pas moins de plus en plus investie dans l'aide à tous ses contemporains. Après la guerre, ce sont les fauves qui vont se mettre à peupler son œuvre. On la voit parcourir les jardins des plantes, les ménageries, les cirques pour dessiner. Et bientôt, on verra même des lions déambuler dans le parc à Thomery.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Hélas, au début de l'été 1889, un drame viendra déchirer cette vie tellement heureuse. Nathalie était malade depuis longtemps, elle finit par mourir. « Cette perte me brisa le cœur », écrira Rosa. « Je fus longtemps sans trouver le travail, même dans ma peinture, un soulagement à mon amère douleur. » Elle n'a cependant pas peint son dernier animal. À l'occasion de l'Expo universelle de 89, elle va même rencontrer Buffalo Bill, dont elle deviendra la grande amie. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça à ce même micro. Et puis, c'est une autre Américaine qui viendra réenchanter ses vieux jours, une jeune artiste talentueuse de 34 ans. 4 ans sa cadette, Anna Klumke, qui va commencer par faire son portrait devant son chevalet. On la voit, Rosa, cheveux blancs courts, regard franc, toujours la Légion d'honneur sur la veste bleu nuit. On peut la saisir là dans une intimité qui redevient heureuse, toujours en pantalon, bien sûr, jambes écartées. Il ne lui manque qu'une cigarette aux lèvres. Elle est la liberté faite femme et l'indépendance et la volonté de vivre sans entrave et sans phare. Anna va s'installer, bien sûr, au château de Bi. Elle deviendra l'amie des derniers temps et c'est à elle qu'un jour de printemps 1899, alitée, à bout de force, Rosa chuchotera « Je serai ton ange gardien » avant de s'éteindre à 77 ans.
Vous écoutez Radio Classique.